Voix des Arts, présenté par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, nous sommes toujours en pays nordique avec nos pionnières créatrices au cinéma, mais aujourd'hui, nous quittons la Finlande pour la Norvège. La fois dernière, nous nous sommes promenés dans les plaines enneigées de la Laponie finlandaise, hein, entre autres, avec nos scénaristes réalisatrices. Je cite Mirjami Kuosmanen, et aussi en écoutant des musiques spécifiques de Laponie finlandaise issues de ce peuple nommé les Samis. Alors donc, vous avez rencontré l'une des premières réalisatrices scénaristes née en 1867, nommée Jenny Tjernichin Larsson. Et en continuant notre périple, ce fut pour faire la connaissance, cette fois-ci, d'une historienne nommée Alma Siderjelm, qui participa à l'écriture de scénarios. Puis enfin, une journaliste nommée Brita Vred vous a proposé ses documentaires sur la réalité de la Finlande en temps de guerre. Alors aujourd'hui, nous sautons une frontière pour venir en Norvège, réputée pour sa nature sauvage, la beauté de ses paysages, la magie de ses fjords, ses grandes vallées aux gorges profondes bordées de hautes falaises. La capitale est Oslo, je ne vous apprends rien. Avec, paraît-il, de nombreux musées d'histoire naturelle, de folklore local, de sciences, de musées artistiques, dont celui d'Edvard Munch, le célèbre peintre norvégien de tendance expressionniste qui est né en Norvège fin 19e siècle. Alors, il a laissé une peinture forte, bien évidemment, puisque la caractéristique de l'expressionnisme, c'est d'impressionner en traduisant un malaise avec des sujets, formes et couleurs. Alors, l'une de ses toiles les plus connues est Le Cri, qui traduit l'épouvante d'un enfermement sans issue. Alors, il y a même un parc dédié à la sculpture d'un artiste du 19e siècle nommé Gustave Vigeland, avec 1600 sculptures figuratives, sans compter toutes les sculptures implantées dans la ville elle-même. Or, tous ces musées, je ne les connais pas, puisque je n'ai jamais mis les pieds en Norvège, mais tout ce que je capte de ce pays pour essayer de le comprendre est interpellant pour qui aime et s'intéresse à l'art, la culture et les traditions. Alors, après la description de ce sympathique tableau norvégien, où sont donc nos pionnières créatrices au cinéma ? Eh bien, nous le saurons après avoir écouté un peu de musique traditionnelle norvégienne composée par Edvard Grieg fin 19e siècle. We'll be right back. Après cette agréable mélodie, voici une pionnière créatrice qui arrive tout droit du début du XXe siècle. La première femme norvégienne à s'être trouvée derrière la caméra à l'époque du muet. Elle fut assistante réalisatrice, directrice de production, également scénariste, et se nomme Kurli Drangsholt, qui est née au XIXe siècle en 1890. Alors, elle avait écrit en collaboration un scénario de film policier, Madame visite Oslo, de 1927. Elle fut pour ce film l'assistante réalisatrice du réalisateur Harry Ivarsson et directrice de production. Or, paraît-il, ce film raconte l'histoire d'un couple qui essaye d'escroquer la descendance d'un banquier décédé. Et ce film aurait été considéré comme innovant en proposant une histoire originale avec un contexte différent par rapport à ceux qui sont habituellement proposés, où il est surtout question d'agriculture. Et j'ai également lu qu'elle aurait été pressentie pour être considérée comme la troisième réalisatrice au monde sur le même pied d'égalité que Loïs Weber et Dorothy Asner, dont je rappelle que j'ai évoqué le parcours à la Voix des Arts. Mais l'implication par la suite de Kurli Drangsholt au cinéma reste un peu confuse. Alors, une autre de ces Norvégiennes soulève la question de la réalisation. Il semblerait qu'elle eût réalisé deux films. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fut actrice dès l'âge de 18 ans, et ce pendant de longues années, au moins une quinzaine d'années. Et elle est née en 1893 et se nomme Aud Eged Nissen. Or, ce qui semble aussi un fait avéré, c'est qu'à Berlin, en Allemagne, elle dirigea sa société cinématographique, la Eged Nissen Film Company, de 1917 à 1921, avec ses sœurs. Et elles ont surtout produit des films pour le marché allemand. Et en parallèle, elle a poursuivi sa carrière d'actrice et a joué dans des films de réalisateurs, comme dans ceux de Ernst Lubitsch ou Fritz Lang, et également dans des films norvégiens. Et j'ai lu également qu'elle est devenue par la suite une metteur en scène de théâtre, à ce qu'il paraît remarquable. Donc, voilà pour ces femmes toujours présentes pour participer activement au lancement du cinéma. Or, nous allons encore faire une petite pause musicale, nous le méritons. Remettons-nous au goût du jour des traditions musicales norvégiennes. Aussi, je vous propose encore le compositeur du 19e siècle, Edvard Grieg, pour écouter quelques danses populaires norvégienne. Or, j'ai trouvé, figurez-vous, une critique de cinéma et censeur, comme j'en avais trouvé une en Suède, en la personne de Marie-Louise Gagnaire. Donc, voici notre critique censeur norvégienne en la personne de Fernanda Nissen, qui, elle, est née en 1862. Or, qui est cette Fernanda Nissen? Il paraît qu'elle était une politicienne socialiste zélée et critique de théâtre. Et c'est en 1913 qu'elle devint censeur de cinéma jusqu'en 1920, date de son décès, dont j'ignore la cause, hein, mais elle était relativement jeune puisqu'elle n'avait que 58 ans. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas perdu son temps de militante au service de la condition ouvrière et notamment de celle des femmes de cette catégorie sociale. Elle participait activement à défendre toutes ses causes et elle aurait été aussi la seule femme à participer au débat public sur le cinéma à son époque. Et elle revendiquait une position d'éducatrice conservatrice en matière de culture, mais était très ouverte en matière d'émancipation des femmes, si bien qu'elle prit position en faveur d'un film intitulé La fille sans patrie, réalisé en 1911 par Urban Gan, qui mettait en scène une espionne d'origine gitane, dont la décontraction quelque peu suggestive avait été discutée. En effet, l'actrice nommée Asta Nielsen, qui interprétait ce rôle, se dénudait, provoquait et fumait. Et cette image choquait car elle ne convenait pas à l'idéal féminin de l'époque. Et c'est là que Fernanda Nissen serait intervenue pour soutenir ce film en avançant que malgré les critiques qu'il a suscitées, il ne nuisait pas aux valeurs les plus fondamentales. Or quand même, il semblerait que malgré son rôle de critique et de censeur, Fernanda Nissen ne fut pas totalement favorable à la mise en place d'un organe central de censure, car elle estimait que le cinéma était encore à une phase de balbutiement et qu'il fallait laisser le temps au temps pour que cet art s'affirme. De plus, lorsqu'elle censurait un film pour protéger les enfants, elle ne rejetait pas complètement le film. Elle s'efforçait, semble-t-il, toujours d'apporter des nuances, aussi de manière à stimuler chez le spectateur sa propre capacité de jugement. En tout cas, il semblerait qu'elle restait ouverte aux discussions. Et j'ai cru comprendre également que le temps qu'elle passa à la censure modifia cependant son avis sur le fait que le cinéma était un art, car elle trouvait que le cinéma rendait le public trop passif. Mais globalement, pour elle, le cinéma s'améliorait avec le temps. Alors, ce qu'elle ne comprenait pas non plus, c'est que l'on interdise la nudité comme quelque chose de dégradant, d'immoral, alors qu'elle voyait plutôt la beauté d'un corps comme un hommage rendu à la nature, et que parfois cette nudité était nécessaire pour rendre cohérent la trame du film. Et c'est quelqu'un avec ces nuances qui était souvent controversé. Parfois, elle-même était critiquée comme trop libérale, et dans d'autres circonstances, elle était critiquée comme trop coincée, genre vieille harpie frustrée. Or, c'est une femme, qui, comme vous l'avez compris, était assez fortement politisée. Elle défendait le parti travailliste d'Oslo, fut même sa représentante au conseil, se battait pour la classe ouvrière et fut figure de proue pour représenter les femmes ouvrières. Et elle aurait déploré qu'il n'y eût pas davantage d'implication politique dans les films. Quant à sa vie privée, j'ai noté, parce que c'est insolite pour l'époque, qu'elle ne s'encombrait pas non plus de tergiversations inutiles, car elle a demandé le divorce et elle est partie vivre sa vie avec ses deux gosses sous le bras, hein, si je puis dire. Alors nous allons laisser Fernanda Nissen pour nous tourner vers une musicienne, puisque j'ai trouvé une compositrice également de musique de film. Bon, il s'agirait de 4 longs métrages, mais je n'ai pas plus d'infos sur la question. En tout cas, l'une de ses pièces maîtresses est la Suite Verlaine de 1929. Cette compositrice se nomme Pauline Hall. Elle est née en 1890. Avant de faire tout ceci, elle étudiera le piano et la composition à Oslo, mais aussi à Paris, et se fera connaître à partir de 1917 surtout avec des romances. Alors, elle a également composé de la musique pour le chant choral, pour des productions théâtrales, de la musique de film, comme je vous l'ai dit également. Et elle deviendra également présidente fondatrice de la NIMUSIC, la section norvégienne de la Société internationale de musique contemporaine, à partir de 1938. Alors, nous allons écouter maintenant un extrait, je suppose, de la suite Verlaine, puisque le poème « Il pleure dans mon cœur » est bien celui composé par Verlaine. Alors, vous vous souvenez des paroles pour les amateurs de poésie et notamment de Verlaine. Écoutez les premiers vers que je vais vous réciter avant que vous ne l'entendiez chanter. « Il pleure sur mon cœur comme il pleure sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur ? Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie !» Notre voyage en Norvège ne s'arrête pas là, puisque nous sommes amenés à rencontrer la première, voire la seule scénariste du cinéma norvégien de l'époque. Elle se nomme Hjørdis Heiss, ou S. Heiss. Elle est née en 1902, elle est décédée à un âge avancé, 95 ans, en 1997. Elle travailla surtout de 1939 à 1951 pour le cinéma norvégien, à plus d'une trentaine de longs métrages. Alors, il est dit qu'elle a presque un statut officiel en tant que seule scénariste de Norvège, et même si elle fut reconnue et réputée, elle se plaignait de toucher un très bas salaire. Sans doute, comme bien des femmes, a-t-elle eu du mal à se faire rémunérer à hauteur de son travail et de ses compétences. Alors, elle vient du milieu théâtral, comme beaucoup d'ailleurs, avant de se tourner vers le cinéma, dans lequel elle a fait ses débuts en tant que figurante, accessoiriste et couturière. Son père était metteur en scène de théâtre et sa mère également accessoiriste. Bon, ce qui fait qu'elle était bien placée pour prendre la relève. Du théâtre, elle est passée au cinéma et a occupé diverses fonctions, figurante, monteuse, secrétaire. Elle était sur tous les fronts où l'on avait besoin d'elle et son sens pratique la rendait utile partout où elle intervenait. Alors après la Seconde Guerre mondiale, elle donnera aussi des conférences sur le cinéma dans le cadre d'une école de cinéma et par la suite, elle obtiendra une bourse de travail pour partir à l'étranger, en Italie et en France, étudier les différentes techniques cinématographiques et se perfectionner dans l'écriture de scénarios. Or, c'est une femme qui a fait toute sa carrière dans le monde du spectacle, notamment du cinéma, et qui, semble-t-il, a essayé de progresser dans des directions diverses. Eh bien, nous allons laisser maintenant nos créatrices, pionnières au cinéma, puisque nous arrivons à la fin de l'émission. nous les retrouverons plus tard. En attendant, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.